Les Gérants d'Estrade est une présentation des tables de poker Full House. Vos tournois maison passeront à un niveau supérieur avec les tables haut de gamme Full House. Visitez le www.pokerfullhouse.ca.
Analyse, opinion et entrevue. Sur rbds.ca, bienvenue à l'émission Les Gérants d'Estrade. Et maintenant, voici celui qui n'a pas peur de ses opinions, votre animateur, Simon Smerica.
Bienvenue, mesdames et messieurs, à une autre émission des Gérants d'Estrade, émission du 6 octobre, épisode 23. Cette semaine, on va parler du Canadien de Montréal, la saison qu'ils entreprennent, ainsi que la transaction Mike Ribeiro et Yannick Nima. On va parler de Pete Rose, de Terrell Owen, de Don Matthews et beaucoup plus. On vous remercie tous d'être là une fois de plus cette semaine. Bienvenue, mesdames et messieurs, à une autre émission des Gérants d'Estrade, émission du 6 octobre 2006, où est-ce que cette semaine, on va aller en analyse en profondeur de la transaction Mike Ribeiro pour Yannick Nima, et qu'est-ce qu'on s'attend du Canadien de Montréal cette saison. Et pour commencer, j'accueille mon collaborateur une fois de plus, Keith Solomon.
Bonjour, bonjour, ça va bien, Simon?
Oh oui, en grande forme, toi, t'as l'air resplendissant.
Ouais, oh merci!
Ça commence bien.
Oui, ça commence très, très bien.
On va continuer en te demandant si ça allait toujours bien quand Mike Ribeiro est parti.
Oui, je pense que c'est une bonne chose pour le Canadien. C'est une manœuvre que je pense que Bob Gainey, il fallait qu'il fait, mais tout le monde s'entendait pas qu'il fait avant le début de la saison. Il est très chanceux d'avoir un défenseur. Yannick Nima, je pense qu'il est dû pour une autre assez solide saison. Et Mike Ribeiro, il était décevant pendant sa carrière chez nous et dans le fond, qu'il s'en aille.
Mike Ribeiro, on a eu Yannick Nima, un défenseur quand même établi depuis une dizaine de saisons, un défenseur quand même à caractère offensif.
Oui.
Bon, il y a eu des problèmes de santé. Peut-il redevenir le défenseur numéro 1 d'une équipe?
Il serait pas le défenseur numéro un d'une équipe, mais il va être quand même un défenseur solide pour l'équipe. Il est joueur d'expérience. Et ça fait 10 ans, je pense, qu'il est dans la ligue. Et puis, il est capable de produire dans la ligue au moins plus que Mike Ribeiro.
Si on revient à Mike Ribeiro, est-ce que Mike Ribeiro, c'était, si tu veux, le canard, le vilain petit canard? Ou le mouton noir de l'équipe?
Pas au début, parce qu'il y a eu plus que ses chances de se prouver dans l'équipe. Et il a désappointé, lorsqu'il est venu ici, il était supposé devenir la nouvelle vedette de l'équipe, la nouvelle coqueluche de Montréal. Ça s'est jamais manifesté, il y avait plein de potentiel qui s'est jamais manifesté.
Il manquait de sérieux, même dans ses préparations, il manquait de professionnalisme.
C'est ça. Il manquait de sérieux, de professionnalisme et peut-être aussi de travail fort, parce que je me souviens pendant la dernière série contre la Caroline, il rentrait dans les coins puis il se faisait complètement ramasser par un défenseur du Caroline, n'importe laquelle. Il est pas assez fort physiquement pour aller dans les coins ou quoi que ce soit. Il connaît, bon, moi j'ai mes talents puis moi je vais rester à faire ça seulement. Il est pas nécessairement
Il a pas voulu développer.
Se développer comme joueur complet. Pas comme les autres joueurs qui gagnaient moins que lui et qui se forçaient plus sur la glace.
Okay. Au niveau de son habillement hors glace, est-ce que ça le nuit par rapport à l'image qu'il pouvait dégager quand on connaît un peu ce que le Canadien espère là, d'un joueur au niveau de l'image qui retransmet à l'extérieur?
C'est vrai, parce que lorsque tu joues pour le Canadien de Montréal, on veut comme quoi tu te comportes d'une certaine manière en dehors de la glace. Si tu regardes des joueurs comme Gainey, qui est toujours comporté avec de la classe et du respect, Carmono se faisait quasiment à peine se parler de lui. Patrick Roy, ouais, il était baveux, ouais, il était arrogant, mais il se faisait pas parler de lui en dehors de la glace. Mais Mike Ribeiro, on savait que lui, il sortait, lui, Théodore, Dagenais, il sortait, il faisait la fête, il prenait pas nécessairement leur métier au sérieux.
Moi, j'ai une question pour toi. On sait que les Stars de Dallas avaient un certain intérêt pour Mike Ribeiro depuis des mois.
Oui.
Selon certaines rumeurs, si vous allez sur le site rbds.ca, il y a le blog de la Ligue nationale de hockey, ça fait plus de 4 mois qu'on savait que le défenseur, le futur défenseur des Hurricanes, qui a été repêché, Jack Johnson, était pour être échangé, ce qui a été fait. Bob Gainey a tenté le terrain et on dit que ce qu'on a demandé du côté du Canadien, c'était Mike Komisarek et Mike Ribeiro. Chose qui a été rapportée aujourd'hui par le journaliste Mathias Brunet de La Presse. Bon, la transaction a été faite avec Los Angeles. Finalement, Jack Johnson est parti là-bas. Mais par la suite, Guillaume Latendresse a fait l'équipe et Mike Ribeiro a dit « Je vais le prendre sous mon aile ». Est-ce que c'est ça qui a été l'élément déclencheur, qu'on voulait pas laisser Mike Ribeiro prendre sous son aile Guillaume Latendresse?
Je pense que non, mais je pense aussi que Mike Ribeiro, là, avec le contrat qui est signé, Bob Gainey a dit « Bon, on va augmenter ton salaire, mais c'est absolument ta dernière chance ». Donc, c'était à Mike Ribeiro de prouver qu'il méritait de l'argent et qu'il méritait d'être à une place sur l'équipe du Canadien et dans la Ligue nationale de hockey.
Mais ça, son poste était déjà garanti?
Pas nécessairement, parce que Gainey, il est un genre de directeur général et Carmona est le genre de joueur que, bon, tu peux gagner, être le meilleur salarié de l'équipe, si tu ne produis pas, c'est la glace, tu ne joues pas.
Est-ce que
tu
aurais vu Guillaume Latendresse pareil être parrainé par Mike Ribeiro à l'extérieur de la glace?
Je l'aurais vu, parce que ils sont quand même assez proches en âge. Ribeiro, je pense qu'il a 26-27 ans, puis Guillaume Latendresse a 19 ans. Donc, je pense qu'il allait sortir, puis faire de quoi.
Au niveau du professionnalisme, de vouloir se préparer pour une partie, Mike Ribeiro, c'est pas un exemple pour Guillaume Latendresse.
C'est vrai. C'est vrai. C'est pas un bon exemple pour Guillaume Latendresse. Il devrait...
Est-ce que Bob Gainey a paniqué en voyant ça que...
Non, je pense pas que Bob Gainey a paniqué. Je pense que Bob Gainey, il y en avait peut-être marre de joueurs qui se forçaient pas sur la glace, qui produisaient pas comme d'autres joueurs qui gagnaient moins, mais qui se forçaient. Genre les Plekanec, les Higgins, même les Komisarek, quoi que ce soit, qui se forçaient sur la glace au moins. Ribeiro, ça a l'air des fois que... Il se forçait pas tellement, pas plus que les autres sur la glace, ou il produisait pas plus que les autres sur la glace.
Okay. Est-ce que Mike Ribeiro devait partir parce qu'on avait vraiment besoin d'un défenseur? Est-ce que si Bouillon et Jean-Philippe Côté n'auraient pas été blessés, Ribeiro serait resté?
Je pense que oui, mais au courant de la saison, je pense que Ribeiro aurait été soit un rayé de l'alignement ou éventuellement un changé. Parce que il n'était pas dans les plans de long terme de l'équipe, selon moi. Sauf qu'il fallait que Ribeiro, qui se taillait une place sur l'équipe, surtout avec les gens, parce que, écoute, Guillaume Latendresse s'est taillé une place sur l'équipe, ils ont laissé partir Yann Boulis, Nicolas Lindstrom, d'autres joueurs qui ont laissé partir.
Dubois mort.
C'est ça, comme tu dis, Dubois mort. Et puis, c'est ça, Guillaume Latendresse, il s'est taillé une place sur l'équipe, et Mike Ribeiro, il a fallu, dans le fond, regagner sa place sur l'équipe, parce qu'il y a d'autres personnes qui avaient plus de temps de glace que lui. Dagenais a eu ses chances, et puis il était pas patient avec Dagenais du tout, mais Dagenais aussi, je pense que les joueurs comme Ribeiro, comme Dagenais, aimaient tout ce qu'ils venaient avec jouer du hockey professionnel pour le Canadien de Montréal, sauf le jeu sur la glace elle-même.
On va parler d'un autre sujet qui effleure toujours Ribeiro. Je t'ai parlé de la transaction de Jack Johnson. On dit que Jack Johnson, c'est le futur Chris Chelios.
OK.
Scott Stevens avec un coup de patin à la Paul Coffey. Est-ce que tu aurais donné Mike Komisarek et Mike Ribeiro pour Jack Johnson?
Pas nécessairement. Non.
Parce que quand on sait que Los Angeles a juste donné Gleason et Éric Bélanger, est-ce que tu aurais donner Komisarek et Ribeiro?
Mais Komisarek, il est quand même un défenseur qui se développe d'année en année. Il est peut-être pas être un super vedette, mais il est quand même un joueur solide sur la glace. Ribeiro, hit or miss. Ça dépend si lui, il veut jouer puis s'il est capable de se forcer. Et là, il est capable de mieux produire, mais d'autres places, il était pas, il produisait pas puis ça avait pas l'air qu'il était vraiment très intéressé à se produire sur la glace.
Moi, personnellement, je l'aurais fait tout de suite, la transaction.
Oui?
Ben, bon. Mike Ribeiro, moi, je m'en suis jamais caché. Je l'ai toujours dit sur l'émission. Je l'ai jamais aimé, particulièrement quand il était avec Pierre Dagenais. Puis Mike Komisarek, c'est un bon gars. Il a le cœur sur la main. On a pu voir quel genre de gars que c'était, un gars sensible. C'est toute une pièce d'homme. Mais c'est pas un talent brut comme Jack Johnson.
Mais c'est un talent brut, mais est-ce qu'on sait, est-ce qu'il allait être une vedette chez nous? Il y a plein d'autres personnes qui auraient dû être des vedettes chez nous qui ont jamais matérialisé. Ouais,
mais là,
comme...
on parle d'un joueur qui a été repêché troisième derrière Sidney Crosby.
Je comprends, mais on savait même pas que Sidney Crosby, on espérait qu'il était quand même un joueur solide dans sa année recrue. Aurais-tu pensé l'année passée qu'il aurait marqué 100 points dans sa saison recrue?
Non, moi j'avais dit 70 points.
Tu vois?
Ouais.
Tu vois, Ovechkin, t'aurais pas pensé qu'il aurait été le premier marqueur ou un des meilleurs marqueurs de la ligue.
Mais 70 points, je veux dire, pour un joueur de 18 ans, c'est quand même respectable.
Ouais, c'est respectable. 100,
c'est phénoménal.
C'est ça.
Bon, mais Mike Komisarek, ça sera jamais plus qu'un quatrième défenseur.
C'est vrai. Mais il y a de l'expérience de la Ligue nationale et je suis pas certain que j'aurais donné un recrue de Jack Johnson pour un joueur, un défenseur solide quand même. Et Mike Ribeiro, quelqu'un que je pense qui aime être la vedette, mais qui se force pas trop à le faire sur la glace.
Bon, ça c'est l'avenir qui nous dira lequel une d'eux qui aurait eu raison.
C'est vrai.
Bon, je fais un mea culpa. Ah, okay. Ça m'arrive pas souvent de me tromper, mais quand ça m'arrive, je le dis ouvertement devant tout le monde. Okay. J'avais dit que Guillaume Latendresse ne ferait pas l'équipe cette saison, pas parce qu'il manque de talent, mais parce que on connaît un peu la philosophie du Canadien. J'ai dit, il va faire une année de plus dans le junior, c'est ce qu'ils vont faire. Puis ça a failli le faire, mais veut pas, Latendresse a vraiment mis le pied dans la porte, puis je te dis même qu'il l'a défoncé.
Pour être vraiment franc avec toi, j'ai dit la même chose. J'ai dit que moi, je pensais que Latendresse aurait passé une autre année dans le junior, puis Kotitin serait le joueur qui serait chez nous parce qu'il a déjà joué l'année passée. Mais j'aimerais voir ça. Latendresse, j'espère qu'il devient un marqueur de 40-50 lui chez nous. J'espère. Qu'est-ce que je veux pas qu'il se développe, c'est qu'on met beaucoup de pression sur lui parce que, bon, il est un bon joueur québécois, puis il y a un quote-unquote manque de joueurs québécois sur le Canadien. Pour moi, le Canadien, je comprends, c'est l'équipe de Montréal, c'est l'équipe canadienne, c'est l'équipe que moi j'aime, mais s'il y a des joueurs européens ou quoi que ce soit, ils sont capables d'aider l'équipe, ils veulent jouer à Montréal, tant mieux. Moi, je veux la coupe.
C'est clair. Je pense que c'est ça que les partisans veulent aussi, c'est une coupe avant 2009.
C'est ça. Et aussi, si le Canadien, il dit, bon, OK, il y a un manque de joueurs québécois sur le Canadien, il y a un manque de joueurs québécois dans la Ligue nationale de hockey. OK? Ça se peut qu'ils sont peut-être, il y a d'autres provinces ou d'autres places où ils ont des joueurs plus talentueux. Écoute, dans la Ligue nationale de hockey, il y a une génération de gardiens de but qui jouent de gardiens de but à cause d'un gars qui s'appelle Patrick Roy. On peut dire qu'il manque des Québécois sur le Canadien. Non, mais tu prends les meilleurs joueurs disponibles à toi.
Puis même à ce chapitre-là, il y a de plus en plus maintenant de gardiens de but européens qui reprennent le flambeau graduellement.
C'est vrai. Ils reprennent le flambeau graduellement, puis ils se donnent ils se forcent à se faire une place avec des fondamentales, puis ils aiment aussi se tailler une place sur des équipes et qui se forcent avec leur style de jeu aussi, qu'ils s'adaptent aussi au style de jeu nord-américain aussi. On voit comme il y a des gardiens de but européens qui sont capables de gagner la Coupe cette année. C'était toujours une des bonnes équipes cette année, c'est San Jose. Ils ont des gardiens européens, ils ont une bonne chance à gagner la Coupe. Calgary a une bonne chance à gagner la Coupe avec un gardien européen. Le Lightning d'il y a deux ans, l'ont fait avec Abby Boulin, un gardien russe. C'est pour toutes les équipes, et surtout pour les Canadiens, tu prends les meilleurs athlètes à ta disposition. Présentement, c'est la première fois dans l'histoire du Canadien qu'on a deux gardiens de but, qu'aucun des deux soit Canadien.
Francophones les deux, mais qui sont pas canadiens.
C'est ça.
Si on revient à Latendresse. Oui. Aujourd'hui, on a annoncé que il y avait deux parrains dans l'équipe qui étaient pour le suivre, qui étaient pour être un modèle pour lui. On a nommé Dan Deneau et Steve Bégin.
OK. Deux gars de caractère.
Oui. Deux gars sérieux.
Oui.
Autant sur la glace qu'en hors glace. Deux gars intenses.
C'est vrai. Moi, je pense que c'est une bonne chose. T'as besoin de quelqu'un de le mot en anglais, c'est mentor, de suivre Latendresse pour l'aider dans le guider, savoir comment se comporter avec les médias, avec les choses. Mais ça devrait être le job, pas juste de ces deux joueurs-là, mais de tous les joueurs sur l'équipe, parce qu'ils ont déjà beaucoup plus d'expérience que lui. Donc, c'est lui d'accepter dans tous les joueurs. Il y a des joueurs qui sont peut-être un petit peu plus fermés, d'autres qui sont beaucoup plus ouverts. Mais à chaque fois avec les médias, on voit Dandolo s'exprimer, on voit Bégin s'exprimer. Il s'exprime très, très bien en anglais et en français.
Moi, Latendresse, j'adore son style. C'est un style qui m'a toujours plu, qui me fait penser à Todd Bertuzzi, à Cam Neely. C'est le genre de... et même Eric Lindros.
Oui.
un joueur qui est capable de patiner, qui est rapide, qui est gros, qui sent de son physique et qui marque.
Mais l'affaire, c'est que moi, je veux pas qu'ils mettent la pression. Les médias et le public montréalais, je veux pas qu'ils mettent la pression
sur Guy. Je pense pas. Je pense qu'il est déjà bien entouré. Je pense que même les ressources au niveau de communication du Canadien ont déjà informé les médias qu'il y aura pas beaucoup d'entrevues, sauf après les entraînements puis après les matchs. Puis c'est ça. Il va être vraiment limité.
C'est beaucoup pour un recrue. Il est québécois-français. Il joue pour le Canadien de Montréal. C'est une des rêves de la majorité des enfants qui est élevé à Montréal et au Québec, même dans le reste du monde aussi.
Il y a mais Mike Ribeiro a passé par là aussi. Là, puis je veux dire, tout est une question de maturité. Là. C'est à lui à mettre du sérieux. Puis
c'est vrai.
Puis en regardant justement l'exemple de Mike Ribeiro, je pense qu'il a tout à gagner en ayant la ville à ses pieds ou tout à perdre. Oui, comme Mike Ribeiro.
Parce que qu'est-ce que je veux pas que, bon, on est au match 20 du Canadien de Montréal dans l'horaire, là. Mettons que la tendresse a marqué 2 buts. Mettons. 2 buts, 3 passes. Mettons. Qu'est-ce que tu penses que les médias vont dire? Ben, ça se peut que peut-être il aurait dû rester en junior une autre année. Ah, ça se peut qu'il,
Ben, ça dépend de son implication physique durant les parties. Ça dépend de son différentiel plus et moins. Il reste quand même sur un troisième trio, ce qui enlève de la pression.
Je comprends, mais en même temps, il a 19 ans, il est là pour se démarquer et de produire dans sa position. Il est là pour ça. On espère qu'il gagne le recrue d'année, je sais pas s'il va le faire, mais moi je veux qu'il ait une bonne saison quand même et que dans le fond, les médias et le public montréalais lui foutent la paix aussi.
Maintenant, mes craintes à moi par rapport à la saison du Canadien, si on regarde les matchs préparatoires, ça a été définitivement les gardiens de but. Christophe Allouet puis David Abéchard, ça a été très ordinaire. Et à 3 millions, Christophe Allouet, là, il va l'avoir la
Simon,
pression.
Simon, respire. Respire, Simon. Des matchs préparatoires, ça ne veut absolument rien dire.
Non, mais quand même, okay. Une performance à donner. Là.
Oh, ouais, non, il a avoué lui-même. Il a dit que bon, il était bien ordinaire. J'étais au match préparatoire.
Tu sais, dans le fond, là, les deux sont là pour se battre. Parce que David Abéchard a tout approuvé en montant qu'il est un gardien de but numéro un. Puis Christophe Allouet, il a tout approuvé justement qu'il faut qu'il tienne son bout. Puis ils l'ont pas fait ni un ni l'autre.
Mais je vais te dire de quelque chose, là. J'étais au match préparatoire. À la fin de deuxième période, c'était 5 à 3 Ottawa. En troisième période, Ottawa continuait à attaquer. Christophe Allouet était excellent en troisième période. Et le Canadien a venu et a gagné le match, 6-5. J'ai regardé des previews sur TSN ce matin, il parlait de Christophe Allouet, il dit qu'il descend trop rapidement. Donc, il y a beaucoup de tirs qui vont le battre des côtés des épaules, du côté gauche ainsi que du côté droit. Scouting report, shoot high. Bon, mais quand même, Christophe Allouet est quelqu'un qui, on le dit carrément, il n'est pas extraordinaire. Il est quelqu'un qui utilise ses fondamentales, qui est très, très bon dans ses...
C'est un gardien d'angle.
C'est gardien d'angle, il est toujours dans une... rarement on trouve dans une mauvaise position lorsqu'il remarque des buts. Mm-hmm. Lorsqu'il se fait des buts marqués sur lui, il est toujours dans une position pour défendre la rondelle. Je sais pas si tu t'es rendu compte. Si tu te bats, tu te bats, mais il est toujours là. C'est pas parce qu'il était mal positionné ou mal quoi que ce soit. Il travaille beaucoup avec Renaud Melançon, puis surtout Renaud Melançon, il reconnaît, c'est lui qui était l'entraîneur des gardiens de but quand José Théodore, il a gagné le joueur le plus utile il y a 5 ans. Donc, moi, j'ai confiance dans ses moyens, lui.
OK. Maintenant, si on regarde l'attaque et la défensive du Canadien, y a-t-il un joueur que tu vas particulièrement regarder là, les performances cette saison?
Samsonov, je pense. Nouveau venu chez l'équipe. Je vais voir comment lui et Kovalev sont capables de jouer ensemble avec Plekanec au centre. Je sais pas si ça marche pas bien, parce que d'après ce que j'ai vu, ça marchait pas tellement bien jusque vers la fin de la saison, lorsque Plekanec, la fin de la saison préparatoire, avant que Plekanec devienne centre de cette ligne-là. Et lorsqu'il était devenu centre de cette ligne-là, là, ça a l'air de marcher. Passe, beaucoup de buts, il était capable de produire, être beaucoup plus productif que, mettons, Ribeiro à cette position-là.
Moi, le joueur qui m'impressionne, puis que je pense qu'il ne deviendra pas une super vedette, mais quand même une vedette à Montréal, c'est Christopher Higgins. Un ancien premier choix au repêchage l'année passée. Moi, il m'avait toujours donné l'impression que c'était pour être un joueur défensif. On le mettait tout le temps avec
quatrième trio.
Claude Julien, quatrième trio. Maintenant, on l'a mis plus dans les deux premiers trios. A été chercher 17 buts en espace de pas grand temps.
C'est vrai.
J'ai l'impression que lui, son développement se fait vraiment très bien. Puis que il risque de nous impressionner cette saison.
C'est vrai, puis surtout avec un joueur de deux sens comme Carbonneau, qui est head coach.
Très polyvalent aussi.
Exactement. C'est ça, il va Christopher Higgins va jouer, devenir un joueur très, très, très polyvalent. Le genre de Rod Brindamore, on espère. Qui est capable de travailler dans les deux
sens. Aussi physique?
Peut-être pas aussi physique, peut-être plus rapide. Même dans les meilleures années de Rod Brindamore, là, peut-être plus rapide. Mais dans ce genre de joueur-là, qui est capable de productif avec les buts, les passes, et aussi jouer du côté défensif. Mettons, si je suis capable de le mettre, il dit, bon, toi, tu vas surveiller Thornton ce soir, ou toi, tu vas surveiller Martin Saint-Louis ce soir. Il est capable de faire ça aussi, comme un joueur complet.
Maintenant, en ce début de saison, tes prédictions, le Canadien de Montréal fait-il les séries?
Oui. Ils font les séries, pas meilleures que sixième, mais septième et huitième sont beaucoup plus possibles pour le Canadien de Montréal.
Moi, je pense qu'ils les feront pas. je me ferai pas aimer, mais regarde. Ça, on regarde ça rapidement, OK? Ottawa, c'est meilleur que le Canadien.
Oui.
Les Rangers.
Mmh.
Ouais. Ben, Jagr, Shanahan.
Ouais.
Buffalo.
Oui.
Okay. Caroline.
Je pense que Buffalo est même meilleur qu'Ottawa.
Oh oui, mais je les mets pas dans l'ordre. Là.
OK.
Caroline.
Pour l'instant, oui.
Tampa Bay.
Non.
Non?
Non.
Excuse, mais les Canadiens n'ont pas de Brad Richard, de Vincent Lecavalier, de
qu'est-ce qu'ils
Martin
ont fait
Saint-Louis.
Qu'est-ce qu'ils ont fait l'année passée?
Et, l'année passée, c'est vrai. Il n'y avait pas de gardien de but, mais ils ont été chercher Marc Denis cette saison.
Wouhou!
Comment? Wouhou! C'est quand même un gardien de but numéro un, Marc Denis.
À Columbus.
Mais maintenant, imagine-toi encore autrement plus à Tampa Bay. Ils en ont perdu un petit peu, c'est vrai. Ils ont une défensive moyenne, mais ils ont une attaque et ils ont un gardien de but. Si t'avais le choix entre Marc Denis et Cristobal Huet.
Après, qu'est-ce que j'ai vu l'année passée?
Non, je te parle maintenant.
Maintenant? J'aurais quand même pris Cristobal Huet.
Bon.
J'aurais pas pris Marc Denis. Wouhou!
New Jersey.
Ouais, toujours une équipe défensive dangereuse aussi.
D'ailleurs, la Moriello qui a fait des miracles, qui a signé Chianta.
Part of the Red Sea, ouais.
Bon. Ce qui reste à peu près... Boston aussi. Boston, ouais. Où ils ont été chercher Chara, Marc Savard.
Sur papier, ils sont la meilleure équipe, je vais les voir jouer.
Bon.
Je suis pas encore convaincu de leur situation de gardien de but.
Ce qui reste plus ou moins là, une place pour...
Boston, mais pour... c'est pour... Et aussi, avant que... Tu continues. C'est pas encore garanti que Boston va faire les séries, là.
Non, c'est sûr.
C'est pas encore garanti qu'eux, ils vont faire les séries. Je pense pas qu'ils sont meilleurs que les Canadiens. Peut-être ils ont cherché de la rapidité.
Ils ont été chercher une bonne défense, là.
Ouais. Et la rapidité sur l'attaque. Et, Marc Savard va passer à qui? Peter Bergeron?
Ouais.
OK. Puis qui d'autre? Marc Ostrom?
Boyle.
Brad Boys. OK. Ben, nous, on a aussi Kovalev. On a
Phil Kessel.
Phil Kessel recrue. Il doit.
Ah, il a bien fait. Il patine, le jeune.
Il patine, le jeune, mais I want to see it for real.
Ah, man. Il a signé son contrat, puis il va rester là. Ce qui reste à plus ou moins une place pour Montréal, Atlanta, Philadelphie, Toronto, et j'en oublie encore quelques-uns.
Islanders.
On va laisser le cercle là-bas.
OK.
Fait que Atlanta, Philadelphie, Toronto. Toronto, bon, qu'ils les feront pas.
Right.
Mais ça va être quand même une bagarre encore entre Philadelphie.
Je dis pas que ça va être pas facile.
Philadelphie avec Forsberg gagné.
Ils ont pas de gardien.
Pitcannon.
Ils ont pas de gardien. Puis Forsberg revient de la chirurgie. Là. Il va pas être à 100% tout de suite. Là. Je comprends. Yeah, the bionic man. Mais il peut pas faire de miracles tout seul. Là. Et ça se peut aussi, si ça va pas bien à Philadelphie, ça se peut qu'on les change. Je pense qu'il reste un an sur son contrat.
À qui?
À Forsberg, je pense,
ouais,
je suis pas
peut-être.
Certain. Ça se peut qu'on l'échange pour avoir peut-être des jeunes prospects parce que il y a un genre de youth movement avec les Flyers de Philadelphie un petit peu là.
Bon, il y a quand même aussi Pittsburgh. On ne connaît pas encore qu'est-ce qui pourrait arriver. L'année dernière à Pittsburgh, on les voyait quand même très haut, puis ça a été une déception, là, j'en conviens.
Pas de défensive, pas de. Bon. Ils ont un ligne en attaque, peut-être. Là, ils ont Malkin et Crosby, 1-2 punch.
Jordan Staal.
OK. 1-2 punch, Malkin et Crosby. Jordan Staal, il recrue, on sait pas qu'est-ce qu'il va faire.
Mm-hmm.
Qui d'autre?
Bon.
Right.
Dans la Ligue nationale, si tu as une histoire à suivre, ça va être laquelle?
J'en ai deux, dans le fond. Ovechkin et Crosby, je vais les suivre pour voir s'ils ne souffrent pas du sophomore jinx, s'ils sont capables de répéter les exploits de l'année passée. Et aussi pour voir Malkin, pour voir s'il est vraiment le real deal. J'aimerais le voir dans la Ligue nationale quand il se fait frapper la première fois.
Crosby et Ovechkin, c'est vraiment une histoire à suivre. L'année dernière, c'était pour le Calder, mais là, c'était...
C'est toujours une histoire à suivre. C'est une rivalité qui va être développée pendant les années.
Comme Gretzky, puis le mieux.
C'est ça. Moi, j'ai hâte à voir ça. Moi, je vais voir les deux sur la glace en même temps.
Moi, j'en ai trois. J'ai entre autres, où est-ce que Vancouver va se situer maintenant qu'ils ont Luongo?
Ils ont Luongo, mais ils ont perdu beaucoup. Jovanovski, Bertuzzi, ils ont chippé dehors, puis d'autres joueurs de
mais ils n'ont jamais Carter. Eu de bons gardiens de but depuis quoi? Richard Brodeur dans les années 80?
Ou Kirk McLean.
Ouais, qui était ordinaire.
Ben, pas... Ben, il est meilleur que qu'est-ce qu'il y avait.
Luongo, dans mon livre, moi, qui est le meilleur gardien de but présentement, là, au niveau talent, là.
OK. Ou ça se peut, oui. Oui, bon. Oui. Mais je pense que il y a beaucoup de buts Bertuzzi, Anson Carter, Jovanovski, qui ont parti de l'équipe et ils n'ont pas encore été remplacés. Donc, je te le dis, là, Vancouver, je pense pas qu'ils font les séries cette année.
Oh, là, ça va pas bien.
Je pense pas qu'ils font les séries cette année. Mais Luongo peut seulement faire assez de miracles à lui seul.
Histoire à suivre, le duo Tartan-Chichou.
Oh.
Tartan qui a été changé en milieu de saison, qui a... transformer Chichou en marqueur. Ouais, je veux voir qu'est-ce que ça va donner, s'ils peuvent être aussi prolifiques que Adam Oates et Brett Hull.
Ça se peut, ça a l'air que ça peut être ça, là, mais Jordan Thornton et Chichou, j'ai hâte à voir ça.
Ils ont une chimie extraordinaire, ces deux-là.
C'est vrai, et j'ai Chichou dans mon pool, donc j'ai besoin que Chichou fait bien.
Quoi, Thornton a fait quelque chose comme 70 passes.
Quelque chose comme ça.
Chichou, 56 buts.
Oui.
Et combien de temps que Théodore va rester le gardien de but numéro 1 au Colorado?
Je pense qu'il va finir l'année gardien numéro 1. Je pense que, il paye assez d'argent pour être le gardien numéro 1. Dis-moi si j'ai tort, là, mais je pense pas qu'il y a d'autres prospects dans l'organisation de Colorado.
Tout ce qu'ils ont, c'est Peter Boudal.
Yeah.
Bon. mais bon. Écoute, c'est ce qui met un terme au segment principal. On va passer maintenant au segment Shot Clock.
Simon Smirka and his guests are ready. Are you? Because it's time to beat the clock.
Come on, Simon, beat the clock.
On dit que Terrell Owens a essayé de se suicider. Est-ce vraiment une tentative de suicide?
Non, ce n'est pas une tentative de suicide. C'est une mauvaise réaction à des anti-inflammatoires ou à des médicaments. Et s'il voulait vraiment se suicider, il l'aurait fait d'une manière beaucoup plus définitive que de prendre des pilules, tout simplement. Peut-être, ouais, les médias l'aiment pas ou quoi que ce soit, mais il est quand même un bon joueur, mais je pense qu'il est trop orgueilleux pour se suicider.
Terrell Owens, quel drôle de pistolet. C'est jamais de sa faute, a toujours une excuse. Bref, il n'a pas besoin d'avocat, parce qu'il en ferait lui-même un très bon. Peut-être qu'il n'a pas voulu se suicider, mais c'est plutôt étrange que toutes les catastrophes n'arrivent qu'à lui. Je ne sais pas s'il va finir la saison avec les Cowboys, mais c'est à voir. Don Matthews a démissionné de ses fonctions comme entraîneur-chef des Alouettes de Montréal pour cause de maladie. A-t-il vraiment démissionné ou on l'a tranquillement poussé vers la porte?
Je pense que ces malaises sont une grosse coïncidence. Je pense qu'il était poussé vers la porte. Jim Pop, personnellement, je pense qu'il est déjà en tête l'entraîneur qu'il veut l'année prochaine pour les Alouettes, qui est Jim Barker. Je pense pas que les Alouettes, ils vont faire les séries puis ils perdent en première ronde ou même deuxième ronde. Mais je pense qu'ils vont, il est déjà en tête qui veut remplacer Don Matthews.
Don Matthews, depuis son arrivée à Montréal, a toujours eu des équipes à son image. Bref, des équipes très arrogantes. Et cette année, les Alouettes n'avaient rien d'intimidant. Et c'est peut-être comme l'image d'un entraîneur qui commençait à être malade, âgé et fatigué. Mais les joueurs doivent s'analyser et se regarder dans le miroir, eux qui semblent s'enliser. Joe Girardi, qui devrait être en nomination pour l'entraîneur de l'année, a été congédié des Marlins de la Floride. Est-ce normal?
Non. Joe Girardi, il est un très bon gérant. Il devrait gagner le joueur de gérant de l'année parce qu'il a eu le plus de résultats avec le moins de talent. Sa masse salariale était seulement de 15 millions. Il y avait une vingtaine de recrues dans son alignement. Et il va être un gérant pour une autre équipe de la Ligue majeure de baseball qui mérite d'avoir ses services parce que, personnellement, Lurie est un idiot. Lui et Samson ont dit détruire les Expos. Ils vont faire la même chose aux Marlins. Ils sont en train de jouer les mêmes jeux et tirer la ville en otage pour avoir un nouveau stade. C'est les mêmes jeux qu'ils ont fait ici à Montréal. Ils ont menti aux personnes là. Et puis, je comprends pas pourquoi Buddy League et le reste du Major League Baseball les laissent encore rentrer dans la Ligue.
Joe Girardi a prouvé sa valeur avec une saison exceptionnelle dans les circonstances avec 22 recrues et une masse salariale de 15 millions, qui est 15 fois moins que celle des Yankees. Que penser du duo Grand Gallo et Petit Trot? Joe Girardi n'aura aucune misère à trouver une job dans la Ligue où il sera beaucoup mieux traité qu'avec les deux clowns de la Floride. Pete Rose signe des balles où il demande pardon d'avoir parié sur des matchs de baseball. Devrait-on le réintégrer au temps de la renommée?
Oui, je pense qu'il devrait être dans la tente de la renommée basée sur ses statistiques comme joueur. Et je souligne joueur. Si Ty Cobb, connais-tu Ty Cobb? Qui est quelqu'un qui était renommé et meilleur joueur de baseball. Il est aussi renommé raciste, homophobe et misogyne. Lui est capable d'être le premier joueur intronisé dans la tente de la renommée. On peut laisser Pete Rose dans la tente de renommée. De plus, juste parce que Pete Rose, on lui laisse rentrer dans la tente de renommée, ne veut pas dire qu'on a besoin de l'embaucher sur une équipe comme entraîneur ou quoi que ce soit. Aussi, il peut être un bon ambassadeur pour la Ligue baseball de Major. Et ça étant dit, quand même, il devrait s'excuser à tout le monde de savoir parier sur le baseball.
Pete Rose signe des balles où il demande pardon. Il a le culot de demander 300$ pour ses balles. Tout pour faire de l'argent. Pete Rose a été exclu du baseball majeur pour gambling, dont il y avait un haut niveau de avidité. Je sais que ça se fait de demander 300$ pour son autographe sur une balle, comme Ted Williams l'a fait, mais quand tu demandes pardon pour quelque chose que t'as fait de mal, t'as pas à demander une scène pour avoir le pardon. À 300$ et 350$ pour avoir son prénom sur la balle, ça fait pas loin de 100 000$. Collecter 100 000$ pour demander pardon, mais c'est le monde à l'envers. Alors, c'est ce qui met un terme à l'émission. Je te remercie beaucoup, Keith. C'est un plaisir de t'avoir avec nous cette semaine.
C'est un plaisir d'être ici encore une fois.
Vous pouvez aller aussi sur le site de rbds.ca pour aller sur le blog Les coulisses de la Ligue nationale de hockey, où vous pouvez voir toutes les rumeurs. On scrute tous les médias de la Ligue nationale de hockey et on vous donne les dernières rumeurs dans la Ligue nationale de hockey. C'était un plaisir une fois de plus, Keith.
Merci beaucoup, Simon.
Et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.
See you next week for another show with Simon Smirka and his guests.